Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 12 décembre, il est 8h30. Au programme de cette matinale, direction la Genette Verte, dans un instant, pour aller rencontrer Josiane Pertus, qui est directrice de l'agence d'attractivité touristique Gorge Coast Cévennes. Jeudi avait lieu un grand colloque à Florac autour d'un nouveau GR, le GR 736, on parle de tout ça avec elle dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, Corto et Eden sont allés à Mende, au musée du Gévaudan, à la rencontre de Nadia Arabaz et de Nelly Lille Lafont, on écoutera leur reportage en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique et aujourd'hui c'est Serge Reggiani et on y va bien sûr par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. En pleine Coupe du Monde au Qatar, plusieurs personnes, dont la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, ont été inculpées et écrouées en Belgique. La justice soupçonne l'Émirat d'avoir corrompu des dirigeants européens afin d'atténuer les critiques sur les violations des droits humains. La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, et trois autres personnes ont été écrouées dimanche, a indiqué à l'AFP une source judiciaire. Elles sont inculpées par un juge d'instruction bruxellois pour, je cite, « appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption », a indiqué le parquet fédéral dans un communiqué diffusé dimanche. Dans cette affaire est suspecté le versement d'importantes sommes d'argent ou l'offre de cadeaux significatifs à des tiers ayant une position politique et ou stratégique permettant au sein du Parlement européen d'influencer les décisions de cette institution, souligne le communiqué du parquet. Comme l'a souligné Le Monde, des parlementaires se sont étonnés des positions très pro-crétaires défendues par certaines eurodéputées. Le 24 novembre dernier, lors du débat et du vote d'une résolution du Parlement au sujet de l'Émirat à l'occasion du Mondial de football. On s'en fout, ils ont la Coupe du Monde et pas mal d'autres trucs d'ailleurs. Ça vous fait pas flipper ? La corruption est reine du monde en ce moment, ça craint. Ma liberté, Serge Reggiani.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Joliette.
Oh
Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous faites ?
Oui, donc Josiane Pertus, je suis la directrice de l'agence d'attractivité touristique Gorges Costes-Cévennes.
Ici, on est à la Genette Verte, un super événement qui marche bien d'ailleurs, hein, puisque c'est 130 personnes qui se réunissent. Un colloque sur l'itinérance des sentiers d'opportunité.
D'opportunité, en effet.
Pour parler d'un nouveau GR. Quel est ce GR et quand est-ce que l'idée a démarré ?
Alors, ce colloque, il vient clôturer déjà plusieurs forums d'échange qui ont lieu sur notre territoire pour justement mobiliser les professionnels du tourisme sur les attentes des clientèles, sur le GR 736 qui vient justement d'être récemment homologué et mis en tourisme. Donc c'est vraiment pour, quand on parle de sentier d'opportunité, ben en effet, c'est pour que les pros, tous autant que nous sommes, nous saisissions les opportunités aussi bien économiques, que ce soit pour les habitants aussi, de ce GR 736.
300 km.
Oui, 300 km, 15 étapes. Donc, il part de Villefort jusqu'à Albi. Donc, il traverse trois départements, la Lozère, l'Aveyron et le Tarn. Mmh. Et on y retrouve vraiment, finalement, des paysages et un patrimoine remarquable, puisqu'on traverse à la fois. On commence par le Mont Lozère, puis ensuite les Cévennes, les gorges du Tarn. On continue sur la vallée du Tarn et le viaduc de Millau. On enchaîne sur les gorges des Raspes. Donc il y a aussi les Grands Causses. J'essaie de ne pas en oublier. Et on finit par Albi, la cité épiscopale. Donc vraiment des territoires qui sont valorisés aussi par de nombreux labels, hein, puisqu'il y a deux sites inscrits à l'UNESCO. Il y a plusieurs villages qui sont classés plus beaux villages de France ou petite cité de caractère. On a un parc national des Cévennes, un parc régional des Grands Causses, un grand site en projet, Gorge du Tarn de la Jonté des Causses. Donc voilà, un GR qui passe dans un joyau paysager et patrimonial.
Est-ce que l'objectif à terme de ce GR, c'est de rendre comme le Stevenson, en fait, de l'attractivité, de donner encore plus d'attractivité à ce territoire ?
Oui, tout à fait. Un développement économique sur... Mais comme toute itinérance, l'intérêt de l'itinérance, c'est parce que c'est aussi cet intérêt-là. C'est parce qu'en fait, au niveau économique, par rapport à un randonneur ordinaire, ben le randonneur itinérant consomme davantage sur place. Et donc, ça permettra aussi de développer la fréquentation touristique sur les ailes de saison. En tout cas, c'est un enjeu important dont tout le monde doit s'emparer. Hein. Les pros, pareil, enfin l'ensemble du territoire, pour que ça réussisse aussi. Et donc, voilà, c'est un intérêt tout à fait local.
Et justement, quand on parle de ça, est-ce que vous avez dit qu'il était homologué ? Est-ce que ça veut dire qu'il est ouvert ? Est-ce qu'il est tracé ?
Ah oui, alors ce sentier, il existait depuis les années 80, en fait. Puis finalement, il existait même un topo guide, Chamina, dans 95. Puis après, il est un peu tombé dans l'oubli. Et c'est dans les années 2015 que le PNR des Grands Causses a essayé de relancer la dynamique avec les communautés de communes et les communes du territoire. Et donc, voilà, un nouvel élan pour ce nouveau GR qui ne manque pas d'atouts touristiques et économiques.
Et alors, la question peut paraître bête comme ça, mais je me la pose. qui va entretenir ce GR, en fait ? Est-ce que ça appartient aux communautés de communes ? Qui va s'en occuper ?
Alors, c'est plusieurs partenaires. Hein. Sur notre territoire de l'agence d'attractivité touristique, la mission est confiée à l'agence d'attractivité touristique, puisque c'est la communauté de communes qui nous a donné cette mission au moment de la création de l'agence. Mais pour l'essentiel, et sur les autres territoires, c'est souvent les communautés de communes qui sont chargées de l'entretien des GR. Sachant que les départements, de manière générale, sont quand même chargés du balisage. Il y a un partenariat entre les départements, la fédération de randonnée pédestre et l'entretien un peu plus important qui est dévolu aux communes et aux collectifs.
Si on revient ici à ce colloque, il se passe énormément de choses sur la journée. Donc c'est des conférences, en fait. Mm-hmm. Dans les grands points, en fait, qui se sont passés, qu'est-ce qui va se dire exactement aujourd'hui ?
Alors, parce qu'il y a eu une restitution importante justement des résultats des ateliers qui ont été conduits sur les différentes thématiques, les attentes des clientèles, les services à mettre en place, tout le lien avec l'éco-responsabilité, puisque comme on disait, on est quand même dans un joyau paysager qui conviendra aussi de préserver et de concilier à la fois l'activité économique et la préservation du paysage. Ensuite, nous avons des interventions par rapport justement à cette idée d'inscrire le GER dans le cadre du slow tourisme, d'un tourisme expérientiel où on prend le temps de la balade. Mm-hmm. Voilà, peut-être on essaie de casser un peu les codes par rapport à ça. Et puis après, l'après-midi, à nouveau consacré à des expériences professionnelles sur les attentes et les services en place, c'est-à-dire des territoires qui ont déjà avancé et qui nous font un retour d'expérience par rapport à leurs avancées. Quoi.
J'imagine que pour vous, ça fait quoi, 2 ans de travail à peu près, plus ou moins ?
Oui, alors on a tous travaillé le parc régional des Grands Causses, les communautés de communes. Il y a un comité d'itinéraire qui a été créé. Mm-hmm. Nous, au niveau des offices du tourisme, on s'est associé dans un club tourisme. Donc nous sommes 9 offices du tourisme sur le GR, donc pour travailler sur plus spécifiquement sur la mise en tourisme du GR et essayer de travailler à la mise en œuvre des services et pour répondre justement aux attentes de ces clientèles, bien sûr en lien avec nos professionnels, parce que voilà, c'est
une grande fierté pour vous alors de voir autant de monde se déplacer ici.
Ah oui, très 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 fier en effet, oui, vraiment une satisfaction pour moi et pour toute l'équipe, enfin à la fois les 3 offices du tourisme, le PNR et puis mon équipe qui a bien œuvré parce qu'on était sur place et voilà, on est content qu'il y ait aussi autant de monde et qu'apparemment, il y a une réussite certaine.
Eh bien, merci beaucoup et félicitations.
Merci, c'est gentil.
À la prochaine.
Merci, au revoir.
Dans un instant, on part au musée du Gévaudan à Mende. On écoute d'abord Les Loups, ça me faisait marrer, même si la chanson n'est pas très très drôle. En attendant, c'est Serge Reggiani qui la chante.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana... Pour eux, c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit que le. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups. Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de l'eau, oh, 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 de l'eau sont entrées dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De l'eau sont entrées dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De l'eau sont entrées dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre soir de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau, oh, 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 sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry, sans l'eau sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, l'eau, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent faire carousse, yes et bonbons dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, 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 les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. J'aime t'en dire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris.
Et Eden sont allés à Mende au musée du Gévaudan à la rencontre de Nadia Arabaz et de Nelly Lafont. On écoute leur reportage tout de suite.
Alors on est en direct du musée du Gévaudan à Mende. On est en compagnie de Nadia Arabaz et de Nelly Lafont. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et nous expliquer votre rôle au sein du musée ?
Bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, Nadia, je précise, parce que vous n'avez pas l'image, vous n'avez que le son pour les auditeurs. Nadia, je suis directrice musée et patrimoine à la ville de Mende. Donc, multiples facettes. En tout cas, j'ai eu la chance et l'honneur de mener à bien l'ouverture de ce projet avec, bien sûr, toute une équipe. Et Nelly fait partie de cette équipe qui a permis l'ouverture du musée.
Voilà, donc Nelly, je suis chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire. Mende et Lot en Gévaudan, donc le Pays d'Art et d'Histoire, qui est un espace dédié au sein du musée. Et c'est voilà pourquoi je suis autour de la table aujourd'hui.
Le musée avait fermé ses portes en 1995, l'ancien musée Ignon Fabre. Donc il a fallu un temps long en fait pour d'une part traiter les collections qui sont au nombre, on a environ 16 000 objets hein, qui appartiennent à la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère. Donc il a fallu un temps long. Tout d'abord pour gérer cette collection, les mettre à l'abri, les conserver, et puis également un temps long où il y a eu une passation en fait de projet qui a été porté à l'origine par la Société des Lettres, ce musée, puis pendant quelques temps par le département de la Lozère qui a beaucoup œuvré aussi pour ces opérations de conservation des collections. Et enfin, passation à la ville de Mende depuis les années 2010, donc qui a pris en charge la gestion des collections, qui appartiennent toujours à la Société des Lettres, hein, mais la Société des Lettres a confié ses collections à la ville de Mende. Et puis, donc, la ville de Mende s'est lancée dans ce projet de construction tout d'abord de réserves pour abriter les collections, puis de musées. Donc tout ça, c'est un temps très long, aussi le temps de recruter une équipe d'architectes. Donc là, on a l'atelier Emmanuel Nebout qui est à Montpellier et Hélène Brouillet en local. Et puis ensuite, le temps de faire toute cette programmation liée à l'architecture et puis de trouver toutes les entreprises qui auront œuvré sur ce chantier durant 3 années, hein, une trentaine d'entreprises. Donc voilà, un temps long de conception aussi des contenus, de mise sur pied du parcours muséographique, de définir aussi l'esprit des lieux. Et puis un temps qui a permis aussi de rallier des partenaires et évidemment des cofinanceurs, hein, parce que forcément sans finance on ne peut pas monter un tel projet. C'est un projet qui a été cofinancé à 80% par la région Occitanie, par l'Europe, par l'État et par le département de la Lozère. Lely, tu veux en dire un petit peu plus sur ce temps long ? Ça fait longtemps qu'on y travaille, bien avant nous, hein. C'est vraiment quelque chose qui a été porté voilà sur plusieurs décennies, effectivement.
C'est ça, un musée, il y a toute une partie invisible, un travail invisible, mais indispensable, qui précède à l'ouverture d'un musée et au fonctionnement futur. Donc, ouais, ça fait longtemps que le musée, on en parle et qu'on l'attend.
Et ça y est, il est ouvert. Alors, dans le musée, vous allez trouver un lieu vraiment avec de multiples facettes. Vous allez y trouver un musée-musée, entre guillemets, donc du moins un espace dans lequel vous aurez des œuvres présentées qui vont des premières traces de vie au XXIe siècle. Vous allez y trouver des espaces de vie, de partage, d'échange, y compris des espaces de troc. Troc de livres, troc de jeux, troc de graines. Et puis des espaces dédiés à l'action culturelle temporaire, donc expositions et ateliers pour permettre l'accueil de groupes sur réservation. Et enfin des espaces partagés avec le Pays d'Art et d'Histoire. Je redonne le micro à Nelly.
Des espaces qu'on a souhaité ludiques, accessibles à tous, pour une découverte un petit peu décalée du territoire et une ouverture du musée vers l'extérieur.
Vous avez des grandes salles aussi avec des espaces d'exposition très épurés. Ça fait une ambiance hyper zen. Est-ce que c'est un choix conscient que vous avez eu en amont ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait sur le tas en organisant le musée, tout ça?
Alors, la conception des salles, hein, c'est génial que vous ayez ce ressenti et c'est ce qu'on a comme retour du public aussi. C'est vraiment un choix de faire quelque chose de plutôt épuré, plutôt sobre, élégant. Et le maître mot, c'est l'émerveillement. Et l'accessibilité, voilà, pas avoir des salles trop chargées, et faire en sorte que vous puissiez découvrir les lieux vraiment dans une harmonie et voilà, c'est assez agréable parce que les gens nous renvoient ça souvent le petit commentaire auprès de l'équipe d'accueil, auprès de ma collègue, mes collègues qui assurent des visites, c'est assez unanime, les gens ont leurs petites étoiles dans les yeux et donc c'était vraiment le but aussi de créer cet émerveillement. Et de ne pas surcharger les salles vraiment, et surtout de faire en sorte qu'il y ait un mariage heureux entre l'architecture et les œuvres présentées, entre le contenant et les contenus.
Le gros du musée du Gévaudan est dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, avec une architecture plutôt élégante, belle, douce aussi, et ça contribue à... Voilà cette ambiance.
Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu ce travail vraiment mené main dans la main avec les architectes, ayant vocation à vraiment réhabiliter tous ces joyaux historiques du point de vue architectural, et puis aussi avoir du contemporain, des extensions ou certaines parties comme cette grande verrière qui coiffe la cour quand on entre avec ce grand mur en bois. Voilà, créer de la lumière, quelque chose aussi de chaleureux. Cet espace chaleureux, cet esprit chaleureux qui sera vraiment parfaitement accompli au printemps l'année prochaine pour la réouverture le 1er avril avec tout le mobilier qui sera prêt pour le rez-de-chaussée. Il y a des espaces vraiment qui sont dédiés au public, aux visiteurs, aux habitants, aux passants, des espaces dans lesquels vous pourrez vous installer, boire un café, boire un thé, vraiment libre service comme à la maison, plus un espace salon qui aura prochainement donc son canapé, son petit tapis pour les enfants, des tables. Et là, on est dans l'esprit aussi troc avec du troc de livres et troc de jeux. On est vraiment dans l'esprit de l'échange. Tout comme à l'étage, il y a le troc de graines, donc variété ancienne, variété non hybride. L'idée, c'est je donne, je prends, j'échange, je communique, je partage. Et puis des espaces de partage qui se trouvent aussi dans les établis. Cet espace co-construit avec le Pays d'Art et d'Histoire. Je passe le micro à Nelly qui va vous dire quelques mots à ce sujet.
On a toute une salle dédiée à la médiation, si on peut dire, où le visiteur peut prendre le temps de jouer, de manipuler, de s'amuser avec l'architecture et le patrimoine, de mettre aussi en contexte les œuvres qu'il voit au premier étage. Et c'est vrai que le jeu amène souvent des partages entre visiteurs, un qui arrive pas à faire le pulse, l'autre qui lui montre la solution, ce genre de choses. Donc ça a été vraiment une de nos volontés, mais je crois que ça reflète aussi le projet même du musée, puisque partage, c'est aussi le partage des lieux. Là, on a un équipement qui est multiple avec des expositions, des collections permanentes, un musée et aussi des lieux, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.
Alors, vous m'avez dit également que vous proposiez des ateliers. Alors, c'est destiné à qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Alors oui, tout à fait. On propose des ateliers là pour ce mois de décembre tous les mercredis après-midi de 15h30 à 17h30 sur réservation auprès de l'équipe d'accueil du musée. C'est pour un public famille et là la thématique c'est les décorations de Noël fabriquées maison avec du recyclage beaucoup. Voilà pour le format de ce qu'on propose au mois de décembre. Sinon par ailleurs sur réservation. Et à partir donc du mois de février, on pourra également proposer des ateliers pour les groupes de toutes formes, que ce soit atelier d'art plastique, atelier avec un support vidéo à l'appui, si on veut creuser un sujet avec des étudiants par exemple. Ça pourrait être aussi des ateliers culinaires, ateliers gourmands bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est de jouer aussi autour du patrimoine, des collections et de proposer des ateliers en regard, le tout sur réservation.
Ça permet aussi d'aller plus loin sur telle ou telle thématique, voilà.
Vous avez dit que vous aviez 16 000 œuvres, si j'ai bien écouté. Elles viennent d'où ?
Oui, effectivement, il y a 16 000 objets qui composent la collection complète qui vient de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère. Néanmoins, dans le musée, il y en a moins, hein, parce que si on avait mis toutes les œuvres, vous n'auriez plus de place pour circuler. Dans le musée, il y a à peu près 500 objets. Voilà, donc ces œuvres présentées au musée sont, elles, un petit peu plus diversifiées par rapport aux provenances. On a bien sûr le noyau dur, le cœur des collections, la Société des Lettres. Dans ces collections, on a à la fois le fonds historique, mais aussi le fonds Galière, le fonds Victorin Galière, qui a été légué à la Société des Lettres. Et en complément, donc on a aussi des œuvres qui proviennent de dons. Il y a pas mal de particuliers qui nous ont fait des dons ces dernières années, donc c'est venu enrichir les collections présentées dans le musée. Et puis également des dépôts, des partenariats institutionnels avec, par exemple, le département de la Lozère, le parc national des Cévennes, et un petit peu plus loin, le musée du Louvre ou encore le MUCEM de Marseille. On part des premières traces de vie, il y a à peu près 300 millions d'années avec les empreintes de dinosaures pour arriver jusqu'au 21e siècle de l'art contemporain.
Pourquoi vous avez fait le choix de mettre le musée gratuit pour tous? Et du coup, comment vous faites pour financer le musée.
Alors ça, c'est vraiment un positionnement municipal. Hein. C'était une volonté forte de la municipalité de la ville de Mende, donc Monsieur Laurent Suau, maire de Mende, et son équipe, de rendre l'entrée du musée gratuite pour permettre justement l'accessibilité à tous, que le ticket d'entrée ne soit pas un frein à la visite, et que cette ouverture qu'on souhaite sur l'ensemble de l'équipement, donc ce rez-de-chaussée largement ouvert sur le territoire, ces espaces partagés avec le Pays d'Art et d'Histoire, qu'on ne vienne pas tarifer cet espace et tarifer par ailleurs les collections permanentes. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le musée du Gévaudan, c'est tout gratuit. Il y a aussi une offre tarifée qui sera développée, notamment les visites commentées pour individuels et pour les groupes, et puis tous les produits de la boutique qu'on sera amené à développer, ou des actions qui relèvent de l'événementiel ou des ateliers. Voilà. Mais l'entrée gratuite, c'est un positionnement vraiment visant à une ouverture la plus large possible pour tous. Ensuite, comment on finance un musée? En fait, un musée, c'est rarement rentable. Il n'y a aucun musée en France qui est rentable. Un musée, c'est vraiment un organisme, en France du moins, quand on est un musée public, qui plus est musée de France, on est un organisme à but non lucratif. On sait qu'un musée, pour générer des recettes, il faut être un petit peu malin, un petit peu inventif, aller solliciter des dons, en fait, favoriser aussi cet esprit de bienveillance. Le partenariat, donc ça, c'est ce qui existe aussi pour le lancement, puisqu'on a le soutien de la région Occitanie ainsi que le soutien du département de la Lozère pour le lancement du projet musée sur ses 3 premières années de vie. Et puis après, on ira chercher des dispositifs pour générer des recettes, par exemple le mécénat, enfin voilà, essayer d'être malin, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un musée génère une économie circulaire. Il y a tout ce rayonnement et cette attractivité, et les retombées, en fait, elles se feront essentiellement sur le territoire, sur l'extérieur, sur les commerçants, sur le cœur de ville, et plus largement la Lozère, on l'espère, puisque pour nous aussi, l'objectif, c'est de renvoyer des gens vers des sites à visiter. Donc vous voyez, les retombées, elles sont rarement directes pour un musée.
Alors il me semble que vous avez le label Pays Art et Histoire, il me semble que ça s'appelle comme ça, c'est ça ? Alors ça consiste en quoi ce label en fait ?
Alors le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-Angévaudan, il a été créé en 2004 et c'est un label qui est donné par l'État, le ministère de la Culture, à des collectivités, à l'origine 22, aujourd'hui 26, donc à des collectivités qui ont un fort patrimoine et qui ont envie de s'engager dans une démarche de valorisation et d'animation de leur territoire. Donc le Pays d'Art et d'Histoire a 17 ans aujourd'hui et donc il développe des actions de sensibilisation au cadre de vie pour les habitants. Il initie le jeune public à l'architecture et au patrimoine. Il favorise la création contemporaine. Il y a des œuvres créées dans le cadre de résidences d'artistes avec le Pays d'Art et d'Histoire qui sont exposés au sein du musée du Gévaudan. Et il favorise aussi un tourisme de qualité. Donc on va développer voilà des visites guidées, notamment sur la période estivale, des concerts, des conférences, des spectacles. Voilà.
Le musée, il est labellisé Musée de France, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, alors d'ailleurs, il a été labellisé Musée de France du temps où le projet était porté par le département. Il faut rendre ce qui est à César ce qui est à César. Il y a eu quand même tout ce travail fait antérieurement. Donc ce label, en fait, c'est une appellation délivrée par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi musée. Enfin, aujourd'hui, ça a quand même quelques années maintenant. Donc, ça implique voilà des obligations, mais aussi des aides de la part de l'État pour faire certaines actions, soit liées aux collections, soit liées au travail qu'on veut faire vis-à-vis des publics. Dans tous les cas, le cœur de notre métier, c'est d'avoir des collections et de les porter à la connaissance du public, de les diffuser, de les valoriser. Et d'avoir un lieu accessible à tous, voilà, c'est ce qu'on essaye de proposer aujourd'hui par ce biais.
C'est quoi que vous préférez au musée, votre salle, votre œuvre préférée ?
Alors je crois que c'est difficile à dire une œuvre préférée, j'ai envie de dire l'œuvre que je préfère, c'est le musée en lui-même, parce que le musée c'est un tout, c'est aussi bien ce lieu de vie, de partage, ce lieu où on a des œuvres, ce lieu où on a des gens. Donc je crois que j'aurais vraiment du mal à choisir une œuvre, moi c'est plutôt l'esprit des lieux, l'enveloppe qui contient ce tout. Voilà, désolée, c'est une réponse de Normand, comme on dit. Bon, après, sinon, évidemment, je peux vous faire une liste à la Prévert, mais il y a plein de choses. L'objectif, justement, c'est que chacun y trouve quelque chose qui le botte, quelque chose qui fait tilt, quelque chose qui le surprenne. Bon, si, j'avoue quand même, parce que je vois Nelly qui me regarde et qui a les yeux qui clignent, j'avoue, j'ai quand même la salle des vertus, qui est un petit bijou. On parle pas d'un objet, d'une œuvre, mais on parle d'une petite pépite architecturale avec donc ces voûtes peintes d'après Simon Voué. Bon, sinon, j'ai plein d'œuvres préférées, mais bon, là, dans 3 heures, on y est encore. Donc, moi, je préfère que les gens nous disent, au fur et à mesure, des visiteurs, que nous disent, tiens, moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Voilà. J'aime bien, moi, que les gens me disent quelle est l'œuvre qui les a frappés. Moi, j'avoue, j'ai du mal à faire un choix unique. Je passe le micro à Nelly.
Ouais, merci pour la question facile. Non, mais j'aurais pu faire presque la même réponse que Nadia. Après, je crois qu'on est encore tellement le nez encore dedans qu'on n'a pas encore tout digéré du musée. Je pense que dans quelques mois, dans quelques années, on aura un peu de recul. Voilà. Mais moi, j'ai un coup de cœur pour, en tout cas, ce qui concerne les œuvres exposées. Moi, j'ai un coup de cœur pour la peintre Jeanne Bourillon-Tourné. Voilà. J'espère bien avoir le temps, dans quelques temps, de me plonger dans son œuvre. Voilà. Mais sinon, ce qu'on aime, c'est plus le package, tout le projet qu'on n'a pas, voilà, on est encore dedans, toutes ces années qu'on a passées à monter tout ça. Et là, on prend beaucoup de plaisir à découvrir au fur et à mesure, voilà, le retour des visiteurs, et nous, ce qui fonctionne moins bien, nous continuons à nous questionner là-dessus.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? pour donner envie aux gens de venir ou quoi que ce soit, quelque chose qui vous tient à cœur.
L'accueil, vous serez toujours bien accueillis par une charmante équipe d'accueil, toujours prête à vous recevoir. Surtout, retenez qu'on est ouvert là jusqu'au 31 décembre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Et puis ensuite, petite période hivernale de fermeture au public individuel. Donc, comme je le disais, on reçoit quand même les groupes sur réservation en février-mars. Mais notez que la réouverture ensuite, c'est le 1er avril. Donc éventuellement, profitez si vous avez un petit peu de temps, notamment avant les vacances de Noël, pour venir nous voir, venir découvrir les espaces. Les vacances de Noël, évidemment, vous serez le bienvenu, mais il y aura certainement un petit peu plus de monde. Voilà, on a toujours grand plaisir à vous accueillir. Et on reste disponible voilà, par téléphone ou par mail si vous avez des questions. Le site internet sera bientôt un petit peu plus fourni, vous y trouverez un petit peu plus de choses. Et puis toute la programmation se retrouve aussi sur le portail culture du département ainsi que sur le site de l'office de tourisme Mende, Cœur de Lozère.
Et pour vous inciter à venir, vous pouvez venir avant la fin décembre et revenir en avril parce qu'il y aura de nouvelles choses en avril.
Ouais. Tout à fait.
Parce que tout n'est pas terminé.
Plein de surprises pour la réouverture du printemps, ça voilà. C'est sûr.
En tout cas, un grand merci à toutes les deux. Je tiens à dire que c'est un très beau lieu, qu'on a été extrêmement bien accueillis avec une petite visite aux petits oignons. Et bah voilà, un grand merci et puis bonne continuation.
Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir.
Merci Corto, merci Eden. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi pour la dernière de l'année 2022. Merci aussi d'avoir été aussi nombreux aux 10 ans de Bartas ce week-end. Le plateau que nous y avons fait sera diffusé mercredi à 19h. Il est passionnant et il sera disponible sur notre site tout à l'heure. Merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sur Bartas, on y est pas mal. On se quitte avec Serge Reggiani. Il suffirait de presque rien. À mercredi, ciao.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moi, pour que je te dise je t'aime.